Le journal est présenté par Camille Magnard.
Bonjour. Donald Trump se prend les pieds dans ses propres déclarations sur la Russie, accusé de haute trahison jusque dans son propre camp. Le président américain plaide l'erreur de langage, une séquence tragicomique que nous analyserons avec le spécialiste des États-Unis, Corentin Célin. L'Europe et le Japon se félicitent d'un accord de libre-échange ambitieux et historique, mais le JEFTA échappe-t-il aux critiques environnementalistes qui avaient accompagné le TAFTA ou le CETA avant lui? Nous poserons la question à Marie Viennot. Au Nicaragua, la ville de Masaya, symbole d'insurrection depuis 40 ans, c'est de là qu'était partie la révolution sandiniste de 79 dont se revendique aujourd'hui le président Ortega. C'est pourtant là qu'il mène en ce moment la répression la plus forte contre ceux qui contestent son pouvoir. Le sida recule dans le monde mais continue de progresser à l'est de l'Europe. Avec Clotilde Ravel, nous verrons ce que nous apprend le rapport annuel de l'ONU Sida pour 2017. Nous reviendrons aussi sur les propositions que devrait faire cet après-midi une commission d'enquête parlementaire française sur les mesures à prendre pour ne pas devoir faire face à un nouveau scandale sanitaire comme celui l'hiver dernier du lait pour bébé Lactalis contaminé au salmonelle. Dans un quart d'heure, la grande table d'été, ce sera avec Maïlys Bessery, bien sûr, en direct du Festival d'Avignon. On va parler de théâtre documentaire et dresser le portrait de la comédienne Kathleen Damin. Tout cela donc à partir de 12h45. Il n'est plus à un revirement près, Donald Trump, mais celui-ci a tout de même quelque chose de plus que les précédents. Le président américain est venu hier soir face à la presse pour expliquer qu'il s'était mal exprimé lors de sa rencontre lundi avec Vladimir Poutine, qu'il n'avait pas en fait pris le parti de la Russie contre ses propres services de renseignement à propos de l'ingérence du Kremlin dans la campagne de 2016 et que tout cela n'était finalement qu'une erreur de langage. Il faut dire que ces déclarations de Trump à Helsinki lundi avaient choqué aux États-Unis jusque dans les rangs républicains, où le mot « trahison » avait été plusieurs fois prononcé contre le chef de l'État. Cet épisode illustre bien l'isolement et la fragilité de Donald Trump. C'est ce qu'analyse pour nous le professeur agrégé d'histoire américaine, Corentin Célin.
On a trouvé un président Trump de manière inhabituelle d'ailleurs, très confus dans ses explications, extrêmement heurté, lisant un papier dont on a compris après qu'il l'avait lui-même annoté pour répéter, marteler qu'il n'y avait quand même pas eu de collusion avec la Russie. Donc un président Trump empêtré dont on sent bien que ses excuses a posteriori lui avaient été surtout imposées par son équipe à la Maison-Blanche. On l'a appris par la suite, c'est l'équipe de Donald Trump, en particulier son chef d'état-major, le général Kelly, qui lui ont imposé ces excuses, ce rétropédalage auquel, il faut dire, dans son cas, on n'est pas du tout habitué. Il faut bien rappeler que ce qui s'est passé à Helsinki n'était pas du tout ce qu'avaient préparé les aides et les assistants de Donald Trump. Et donc, c'est John Kelly lui-même qui a appelé les élus républicains du Congrès pour leur donner l'autorisation, le feu vert en quelque sorte, pour critiquer le président sur sa conférence de presse. Et c'est face à ce tumulte inhabituel que Donald Trump a finalement consenti, bon gré mal gré, à faire ce rétropédalage.
Voilà pour la tentative d'explication avec Corentin Célin, joint par Bastien Roch. Et Donald Trump, encore lui, serait-il devenu le meilleur VRP du libre-échange à travers le monde en multipliant les barrières protectionnistes dans ses relations commerciales avec la Chine, l'Europe ou le Canada ces dernières semaines? Le président américain pousse, qu'il le veuille ou non, ces pays à intensifier leurs relations entre eux, ce qu'illustre cet accord de libre-échange qualifié d'historique et signé hier en grande pompe à Tokyo entre le Japon et l'Union Européenne. Le JEFTA, puisque c'est son nom, va à terme effacer les barrières douanières pour 99% des exportations nippones vers le marché européen, sur 94% des produits dans l'autre sens. Voilà pour l'aspect qui nous est présenté comme le plus positif. Bonjour Marie Viennot.
Bonjour.
Sauf qu'il y a aussi des voix pour contester cet accord de libre-échange, ce JEFTA, des voix qui pointent ses méfaits à prévoir sur l'environnement en particulier.
Oui, l'une de ces voix, c'est celle de la Fondation pour la Nature et l'Homme, la fondation créée par Nicolas Hulot, aujourd'hui ministre de la Transition écologique. La Fondation reproche à cet accord UE-Japon de ne comporter aucune clause contraignante sur le développement durable, ce à quoi la Commission européenne répond faux, tout le chapitre développement durable est contraignant. Alors qui a raison? En fait, la différence entre le chapitre environnemental et les autres, c'est qu'en cas de litige est prévu seulement un mécanisme de dialogue, alors que pour les autres chapitres, si un pays ne respecte pas les termes de l'accord, il peut y avoir des sanctions. Autre regret de ceux ONG ou politiques qui dénoncent cet accord UE-Japon, c'est de ne pas l'avoir utilisé pour favoriser la lutte contre le changement climatique. Certes, l'accord de Paris est mentionné, mais pour la forme, alors qu'on aurait pu, imagine la Fondation pour la Nature et l'Environnement, obliger les deux parties, UE et Japon, à n'utiliser pour leurs échanges que les conteneurs les moins polluants. C'est une critique que l'on peut faire au sujet de tous les accords commerciaux. Rappelons à cette occasion que le trafic de conteneurs émet des gaz à effet de serre qui ne sont comptabilisés nulle part. Ces émissions n'appartiennent à aucun pays, elles ne font partie d'aucun objectif de réduction, d'aucun accord, même pas de l'accord de Paris. Et elles ne sont pas négligeables. Les 100 000 porte-conteneurs qui naviguent sur les océans émettent à eux seuls autant de gaz à effet de serre que le Japon, qui est le cinquième plus gros émetteur du monde de ces gaz. Alors vouloir favoriser le commerce et donc l'augmenter sans limiter les pollutions liées à cette augmentation, c'est forcément climaticide, pour reprendre un mot à la mode. Or, le Japon plus l'Union européenne représentant 40% du commerce mondial, voilà effectivement une occasion ratée.
Marie Viennot, merci à vous. Il équipe les téléphones portables de centaines de millions d'Européens. Le système d'exploitation Android est au cœur d'une procédure antitrust qui devrait coûter très cher au géant Google. La Commission européenne doit en effet annoncer dans une demi-heure maintenant une amende record contre la firme américaine Google qui fabrique Android. On en parle avec vous. Bonjour Catherine Pétillon.
Bonjour.
Si Google se retrouve à nouveau pris dans le collimateur de Bruxelles, c'est bien pour avoir malmené les règles de la concurrence européenne. Alors qu'est-ce qu'on reproche exactement à Google ?
Alors d'abuser de la position dominante de son système d'exploitation pour smartphone, Android donc. Concrètement, Google en profite pour favoriser ses propres applications et renforcer sa place dans le domaine de la recherche sur Internet en général. La Commission européenne lui reproche d'abord d'obliger les fabricants de smartphones à préinstaller Google Search et d'en faire le service de recherche par défaut. On le retrouve sur la majorité des téléphones fabriqués par exemple par Samsung ou Huawei. Deuxième accusation, celle d'empêcher les fabricants de vendre des smartphones fonctionnant sur d'autres systèmes d'exploitation concurrents. Enfin, la Commission reproche à Google d'avoir accordé des incitations financières aux fabricants et opérateurs à condition qu'ils préinstallent Google Search sur leurs appareils. Trois pratiques commerciales qui enfreignent les règles européennes de la concurrence, avait estimé la Commission européenne dans ses griefs, adressés officiellement à Google en avril 2016, et qui ont des conséquences économiques importantes, comme réduire la capacité d'autres navigateurs à concurrencer Google, mais aussi empêcher le développement d'autres systèmes d'exploitation et donc limiter la création de nouveaux services et applications. Google a déjà reçu l'an dernier une amende record de 2,42 milliards d'euros pour abus de position dominante. C'était pour avoir favorisé son comparateur de prix Google Shopping, amende contre laquelle le géant américain a déposé un recours. Cette fois, le marché concerné est plus important encore. Le montant de l'amende devrait donc être plus élevé. En théorie, il peut aller jusqu'à 10% du chiffre d'affaires de l'entreprise et celui d'Alphabet, maison mère de Google, s'élevait à près de 111 milliards de dollars en 2017. D'ici quelques minutes, donc, c'est la commissaire européenne à la concurrence, Margrethe Vestager, qui annoncera à Bruxelles le contenu de la décision.
Catherine Pétillon, donc cette décision va être annoncée en effet à 13h à Bruxelles. 2 ans qu'il s'appliquait en Turquie, l'état d'urgence sera officiellement levé ce soir minuit, 2 années donc presque jour pour jour après la tentative de coup d'état contre le président Erdogan qui avait justifié ce très strict durcissement sécuritaire. L'état d'urgence en Turquie aura permis au pouvoir en place de se renforcer, de mener des purges que l'on sait dans l'administration, la justice et la police. Une loi antiterroriste a été déposée cette semaine au Parlement turc pour inscrire dans la durée de nombreuses dispositions du régime d'exception. La presse internationale tenue à bonne distance au Nicaragua de la ville de Masaya. C'est là que se déroule depuis hier une opération de nettoyage présentée comme telle par les hommes de Daniel Ortega. Le président nicaraguayen, ancien guerrillero sandiniste, est violemment contesté depuis maintenant 3 mois par une partie de son peuple. Les affrontements avec la police, l'armée et les paramilitaires armés par le pouvoir ont déjà fait près de 300 morts, dont au moins 2 donc depuis hier à Masaya, une ville en banlieue de la capitale Managua qui n'est pas devenue pour rien un symbole de la contestation. C'est ce que nous explique Maya Colombon, elle est enseignante-chercheure à Sciences Po Lyon et spécialiste du Nicaragua.
Cette ville de Masaya est une ville qui a une tradition rebelle depuis très très longtemps. D'abord, le quartier indigène de Monibo est un quartier qui a été mobilisé de très longue date sur différentes questions indigènes. Et puis surtout, dans les années 70, à la fin des années 70, lorsque les révolutionnaires sandinistes essayent d'organiser une prise de Managua, le quartier de Monibo est le premier quartier où une résistance civile de soutien au Front Sandiniste de Libération Nationale s'organise. Donc c'est en fait le premier quartier du pays pratiquement à avoir soutenu le mouvement révolutionnaire qui était en train de se préparer contre le dictateur Somoza. Donc historiquement, depuis la révolution sandiniste en 79, c'est célébré comme le premier quartier qui s'est révolté contre Somoza.
C'est également le berceau d'Augusto Sandino qui a inspiré la guérillera d'Ortega.
Tout à fait, c'est aussi le lieu de naissance de ce personnage qui est très important dans l'histoire du Nicaragua. Augusto Sandino va en fait dans les années 30 repousser une invasion nord-américaine. Et donc historiquement, c'est aussi ce lieu de la première révolte contre l'invasion impérialiste, d'une certaine manière, des États-Unis, qui inspire le groupe révolutionnaire qui va engager la guérilla dans les années 70.
Maya Colombon, qui était donc interrogée par Valérie Crova. Des témoignages particulièrement alarmants qui nous arrivent cette fois de la province de Deraa, au sud-ouest de la Syrie. Des habitants qui décrivent des bombardements intensifs la nuit dernière sur Nawa, une ville de 100 000 âmes où des dizaines de civils auraient été tués ou blessés en quelques heures. L'armée syrienne qui pilonne à Nawa les dernières poches de rébellion dans cette province syrienne de Deraa, où l'accord de cessez-le-feu qui avait été annoncé il y a 10 jours n'a donc en rien fait cesser les combats. Midi passé de 41 minutes sur France Culture et des nouvelles encourageantes. Pas question de relâcher les efforts pour autant autour de l'épidémie du sida. L'organisme ONU SIDA présentait ce matin à Paris son état des lieux annuel de l'épidémie. Le nombre de décès diminue pour passer pour la première fois l'année dernière en dessous de la barre du million de personnes décédées du sida. Le reste des enseignements de ce rapport de l'ONU SIDA avec Clotilde de Ravel.
Le nombre de décès diminue, mais un long chemin reste à parcourir, a déclaré ce matin Michel Sidibé, le directeur exécutif de l'ONU SIDA. Il pointe des améliorations, notamment dans l'accès au traitement antirétroviral, traitement désormais accessible à plus de la moitié des 37 millions de personnes porteuses du VIH. L'organisation révèle aussi que le nombre de nouvelles infections diminue, 1,8 million en 2017, soit tout de même 5 000 nouveaux cas par jour, contre 2,1 millions en 2015. Pourtant, pointe l'ONU SIDA, cette baisse globale cache des disparités. Les progrès se sont concentrés sur l'Afrique subsaharienne, la zone la plus touchée par l'épidémie. En revanche, en Europe de l'Est et en Asie centrale, le nombre annuel de nouvelles infections a presque doublé depuis l'année 2000. La Russie, par exemple, reste le troisième pays le plus touché par l'épidémie, après l'Afrique du Sud et le Nigeria. En cause, le refus des autorités d'investir pour prévenir et soigner des populations à risque, des populations marginalisées et réprimées, comme les consommateurs de drogue, les travailleuses du sexe ou encore les personnes transgenres. Et Michel Sidibé de plaider pour que les mauvaises lois qui criminalisent ces populations disparaissent et disparaissent tout de suite.
Clotilde Ravel, le scandale sanitaire avait marqué les esprits l'hiver dernier. 36 bébés atteints de salmonellose après avoir bu du lait infantile Lactalis contaminé par la bactérie. Le géant français du lait avait été mis en cause, on s'en souvient, pour ne pas avoir réagi assez vite. Mais la filière de contrôle sanitaire, elle aussi, a dû se remettre en question depuis pour tirer les leçons du scandale. C'est bien l'objet justement des conclusions rendues cet après-midi par la commission d'enquête parlementaire qui a travaillé sur ce dossier Lactalis. Bonjour Hélène Fromantis.
Bonjour.
Quelle piste pour mieux faire face à la prochaine crise sanitaire?
Eh bien, ce rapport, c'est le résultat d'une longue enquête, 4 mois pendant lesquels des dizaines de professionnels ont été auditionnés, à des acteurs de l'administration, de la grande distribution, de l'agroalimentaire et plusieurs ministres, avec un objectif, trouver les failles, les points faibles pour qu'une crise comme celle de Lactalis ne se reproduise pas. Alors il en ressort donc 49 propositions autour de 3 axes. C'est en tout cas ce qu'a indiqué à France Info le président de la commission d'enquête, le député du Nord, Christian Hutin. Les parlementaires réclament d'abord un meilleur contrôle des industriels. L'autocontrôle n'est pas suffisant, a déclaré ce matin M. Hutin à nos confrères d'Europe 1. À l'avenir, dit-il, il faudra contrôler les contrôlés, c'est-à-dire mieux surveiller les groupes industriels eux-mêmes et contrôler les contrôleurs, autrement dit vérifier que les laboratoires de contrôle font correctement leur travail en toute indépendance. Sur ce point, la commission préconise de punir les contrevenants par des amendes et évoque également une forme de responsabilité pénale. Autre axe abordé, les procédures de retrait de vente et de rappel des produits. On se souvient des défaillances durant la crise Lactalis, des centaines de boîtes de lait toujours commercialisées alors qu'elles auraient dû être retirées des supermarchés. Les députés proposent donc d'utiliser des codes-barres ou des QR codes pour faciliter les blocages en caisse. Il demande aussi l'organisation de tests de résistance pour mieux anticiper les procédures de rappel. Par ailleurs, les personnels des magasins devront être formés en conséquence. Enfin, la commission souhaite créer une police de la sécurité alimentaire, une autorité unique car actuellement, trois ministères différents, la santé, l'agriculture et Bercy sont aux commandes. Impossible, selon Christian Hutin, de continuer avec une telle armée mexicaine.
Hélène Fromanti, merci à vous. Un an de prison avec sursis, 10 ans d'inéligibilité, c'est la peine prononcée ce matin contre la maire LR d'Aix-en-Provence, Maryse Joissin-Massigny, condamnée pour favoritisme, détournement de fonds publics et prise illégale d'intérêt. En l'espèce, elle avait favorisé la promotion de son chauffeur personnel et l'embauche de deux de ses enfants. Un coup d'œil sur la météo, enfin bien ensoleillé sur tout le pays cet après-midi avec des entrées nuageuses et des orages tout de même sur le sud-ouest. Quant aux températures, elles affichent entre 22 degrés sur Brest et 31 à Marseille. C'est Emmanuel Faucillon qui réalisait cette édition avec Théo Gomard à la mise en onde. Prochain journal de la rédaction de France Culture, 18h, Stanislas Bazac.